RMC, 10h-13h, les grandes gueules.
Et c'est un essayiste, journaliste, chef d'entreprise que nous recevons aujourd'hui dans les GG sur RMC, Jean-Louis Servan-Schreiber. Pourquoi les riches ont gagné aux éditions Albin Michel.
Monsieur Servan-Schreiber, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les grandes gueules. La richesse explose partout dans le monde depuis les années 2000, c'est ça?
Oui, en gros.
Oui.
Ça commençait déjà avant, mais c'est intéressant de dater ça du début du siècle, parce que effectivement, ça fait une grosse différence, en très peu de temps finalement.
12 millions de millionnaires dans le monde, 500 000 en France?
450, oui, à peu près ça, oui.
C'est-à-dire qu'il y a aussi des riches en France?
Ben, bien sûr qu'il y a des riches en France.
Je sais pas, on nous explique que les riches ont fui le pays, qu'il n'y a plus de riches en France.
Non, c'est pas parce qu'il y en a quelques centaines. Parce que les millionnaires, comme vous venez de le dire, ils sont plutôt 450 000. Alors, c'est pas parce que quelques centaines partiraient que ça ferait une grosse différence.
Et alors, pourquoi cette richesse a explosé ces dernières années?
Pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait longtemps que le monde est en paix et le développement atteint des zones de pays qui jusqu'ici en étaient absentes. Mm-hmm. En particulier, par exemple, la Chine. Mais il n'y a pas que la Chine. L'Inde aussi a fait des progrès considérables. Le Brésil, en fait, c'est un peu partout. Tous ces pays émergents. Alors, ce qui s'est passé d'énorme, c'est que ce qui était le monde communiste avant a basculé vers le capitalisme d'un seul coup. Donc, le libéralisme s'est étendu d'un seul coup à toute la planète. Rien que ça, ça fait une création de richesse formidable. Et puis, en plus de ça, on a inventé deux choses qui boostent. La financiarisation, qui est une sorte de surmultiplication.
Ça accélère,
ça accélère
la richesse,
tout. Ouais. Et en même temps, bien sûr, l'économie numérique. Qui accélère aussi la financiarisation. Donc, tout ça va dans le même sens en même temps. Et partout.
Mais est-ce que c'est un bien pour notre monde?
Est-ce que vous parlez de veau d'or? Le veau d'or.
Alors le veau d'or, c'est autre chose. La conséquence de ça, mais pas seulement de ça, c'est que la seule valeur maintenant universelle est l'argent. Ça, on peut trouver que c'est pas une meilleure idée, surtout pour les jeunes. Bon, mais vous demandez si c'est bon pour le monde. Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer que ça soit mauvais? On parle des riches là, mais en fait, à travers ça, il faut parler des pauvres. La pauvreté s'est réduite dans des proportions extrêmement rapides. L'ONU avait fixé un objectif pour l'an 2015 de réduction de la pauvreté. Il a été atteint 5 ans avant. C'est rarissime qu'un objectif international soit atteint avant. Donc, ça montre bien qu'il y a une espèce de poussée de richesse qui bénéficie d'abord au plus grand nombre. Également aux riches. Après tout, les riches, c'est un sous-produit de la richesse.
Oui, alors, il y a deux questions. L'écart entre les riches et les pauvres, est-ce qu'il est plus important aujourd'hui qu'hier?
Il est plus important dans certains pays et pas en France. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui, pour les Français, les surprend parce que on leur répète en permanence que les inégalités s'accroissent. C'est faux.
C'est faux, ça.
Ah, mais c'est non seulement, c'est faux, mais c'est même récemment encore plus faux. J'ai été surpris. Il y a environ 6 semaines, de découvrir un rapport de l'INSEE, officiel, qui dit que depuis le changement de majorité, les inégalités se sont réduites de moitié.
Donc, contrairement à une idée reçue, il y a moins d'inégalités en France aujourd'hui.
En niveau de vie, après impôt, c'est spectaculaire. Pour les 10% les plus prospères de France par rapport aux 10% les plus modestes, eh bien, c'est passé de 17% d'inégalité à 5,7%. Les Français sont tous persuadés que c'est le contraire. Mais moi, je me réfugie derrière les chiffres de l'INSEE.
Alors, comment expliquer justement cette perception?
Alors d'abord, pourquoi c'est arrivé? À cause de la fiscalité. Bon, on incrimine beaucoup les impôts, mais ils ont eu cet effet. C'est du laminage pour redistribution. Mais bizarrement, le gouvernement ne s'en vante pas. Pour en être content, mais il n'ose pas parler des impôts, donc il n'ose pas parler de ça. Bon. Alors, ce qui fait que la France est le pays le moins inégalitaire du monde, juste après les pays scandinaves, qui ont la réputation de l'être.
Et quand on interroge les Français, ils ont l'impression de vivre dans un pays très inégalitaire.
Évidemment, puisqu'ils écoutent les médias français qui leur répètent ça.
C'est la faute des médias.
Mais bien sûr que tout est la faute des médias. Vous le savez bien, nous sommes tous des médias.
Et c'est un patron de presse qui le dit.
Ben, ça fait un moment que je regarde.
Oui, j'imagine. Mais Jean-Louis Servan-Schreiber, vous dites, bon, il y a moins d'inégalités en France. Mais vous dites aussi que l'argent est devenu la seule valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on juge la qualité de quelqu'un uniquement à son compte en banque. Est-ce qu'il a...
La qualité de quelqu'un, la qualité d'une œuvre d'art, la qualité d'un produit, la qualité d'une personne. Je vaux combien, je pèse combien.
C'est ça qui compte avant tout.
Oui. Ben, franchement, si on en est là, si c'est ça le seul moyen d'établir une valeur, ça prouve qu'on est un peu malade dans la tête. Et ça, c'est un peu la conséquence du fait que cette richesse... C'est une conséquence aussi de la richesse qui gagne. Mais c'est pas seulement ça. En même temps, ce qui était les valeurs religieuses s'est effondré, et ce qui était les valeurs idéologiques et politiques s'est effondré. Donc, les grands piliers qui donnaient une sorte de repère de morale pour les gens, il ne reste plus que l'argent.
Parce que vous dites, la richesse est-elle morale ?
Oui. Oui, parce qu'il y a une question. Est-ce que beaucoup de gens qui nous écoutent se disent, mais est-ce que c'est pas mal d'être riche ?
Bon. Et vous leur dites quoi ? Non ?
Je leur dis, c'est complètement neutre. Il y a toujours eu des riches qui sont produits par la croissance économique. Comme la croissance est plus forte, il y a plus de riches. C'est un phénomène qui, en soi, n'est ni mal ni bien. C'est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, alors là, les comportements des riches selon les uns
mais,
ou les autres.
Oui, mais et aussi, c'est comment on devient riche. Il y a un film en ce moment à l'affiche qui s'appelle Le Loup de Wall Street qui parle de ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de Martin Scorsese. Où c'est l'histoire d'un homme qui devient riche sur du papier. Simplement en vendant des actions un peu bidons.
Et en prenant ses commissions.
Avec talent et en prenant ses commissions. Mais c'est la richesse. Alors, il devient très très riche, mais qui repose sur rien de concret. C'est cette richesse qui triomphe en ce moment ?
Mais évidemment que non. Évidemment que non. L'histoire du Loup de Wall Street, c'est l'histoire d'une escroquerie. Ce sont des gens qui, à l'époque, c'était l'équivalent d'un Madoff, mais avec les mêmes principes. Qu'est-ce que c'est que Madoff, d'une manière ou d'une autre ? C'est de prendre l'argent des pauvres en leur faisant croire qu'ils vont gagner de l'argent. Et en fait, en se gagnant de l'argent soi-même. Bon. Donc, ce film est une histoire exceptionnelle. Et en même temps, ils ont, pour des raisons de mise en scène, ils en ont rajouté, c'est-à-dire que on passe son temps à voir des gens qui sniffent de la coke et qui passent leur temps à sauter des bimbos, comme si c'était le mode de vie normal des riches. Pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise opinion dans une partie, et beaucoup moins qu'on ne croit, de l'opinion française ? Ben c'est parce qu'ils regardent des films comme ça aussi. Donc, ce n'est pas une réalité. C'est absolument pas comme ça. Les riches sont en général des gens qui bossent. D'ailleurs, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont bossé. Et puis voilà.
Des responsables politiques qui disent aussi qu'ils n'aiment pas l'argent. On se souvient du discours de Mitterrand, et vous le citez d'ailleurs, l'argent qui corrompt, l'argent qui dort. Et un François Hollande qui a dit on est riche à partir de 4000 euros et mon ennemi c'est la finance.
Oui, et alors ça sert à rien qu'ils disent ça, puisqu'ils sont en train de changer d'avis, d'une part, et d'autre part, ça n'a pas fait d'effet aux Français. Les sondages, là aussi, la plupart des gens ne le croient pas, les sondages récents, l'an dernier, l'an d'avant, montrent que les Français franchement sont indifférents aux riches.
Ah bon, on a l'impression que plutôt les Français n'aiment pas les riches.
Oui, on a l'impression parce que nous...
Parce qu'on dit toujours une Porsche ou une Ferrari ici en France, on la raye, alors qu'aux États-Unis on l'admire, on veut la posséder.
Oui, et bien c'est parce que nous, les médias, nous répétons ça et les gens ne croient ce que nous disions. Moi je suis très très attentif à la responsabilité que nous prenons. Sur le plan précis des riches, curieusement les Français ne sont pas laissés intoxiqués. 68% les riches leur sont indifférents. Et les chiffres qui restent se partagent entre une certaine admiration et une grande méfiance. C'est pas beaucoup. Donc, c'est un bateau de dire que les Français n'aiment pas les riches. En fait, ils s'en foutent.
Mais qui a le pouvoir aujourd'hui dans le monde ?
L'argent.
C'est l'argent. Donc, c'est plus la politique.
Non, la politique fait ce qu'elle peut pour courir derrière. Ou pour essayer...
De faire croire qu'elle a encore...
En fait, malheureusement, c'est terrible à dire, mais quand on voit la manière, par exemple, dont on entend le président de la République dire aux entreprises, écoutez, s'il vous plaît, créez des emplois, ce qui est logique d'ailleurs, mais on a un peu l'impression que le pouvoir est obligé de faire la manche par rapport aux entreprises, puisque c'est elles qui ont quand même ce pouvoir. Il n'y a plus d'argent pour le faire par le pouvoir public. Voilà. Donc, c'est la prise de conscience, et c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre « Pourquoi les riches ont gagné », la prise de conscience du fait que maintenant, le vrai pouvoir est entre les mains des puissants de l'argent.
Mais vous dites quand même, alors en France, il y a moins d'inégalités ailleurs, mais vous dites quand même qu'il y a beaucoup d'inégalités, notamment dans ces nouveaux pays qui connaissent la croissance et la richesse. Cette inégalité, c'est source de conflits, de guerres.
Alors, ça va dépendre. Prenez le cas le plus intéressant aujourd'hui, c'est celui de la Chine.
Oui.
En Chine, 0,05% de la population possède 40% de la richesse privée nationale. C'est inimaginable en France. Inimaginable. C'était peut-être comme ça en 1825. Oui, bon. La Chine en est là. Comment on fait les Chinois ? Ils ne vont pas se faire la guerre entre eux.
Non, il y a une classe moyenne qui va se créer.
Oui, non, elle se crée. Mm. Elle se crée. Les salaires ont augmenté en Chine récemment de 10%, encore une fois. Ils commencent à devenir, d'ailleurs, un tout petit peu trop élevés pour les fabricants qui commencent à délocaliser au Vietnam ou en Thaïlande, si vous voulez. Donc, en fait, cette gestion... vous avez raison, l'explosion de la classe moyenne qui va caractériser le siècle. Regardez en France. Les riches représentent en gros 1% de la population. Autour de 1% de la population.
Et les riches, à partir de quel niveau?
Vous les mettez à partir de quel niveau?
Alors, simplement, je termine ce que je disais. Les pauvres, c'est autour de 14%. 14 plus 1, 15. 85% des Français sont en classe moyenne. Bon, donc ça, c'est évidemment le règne des classes moyennes. Alors, on est riche à partir de quel niveau? C'est pas 4 000. Quand on demande aux gens par sondage, c'est quoi la richesse? Ils disent 6 000. Bon. Le chiffre qui est significatif, c'est de se rendre compte que à partir du moment où on gagne 7 800 euros par mois, on est dans les 1% les mieux payés. Et quand on gagne 3 000 euros et plus, on est dans les 10% les mieux payés. Donc, on ne peut pas considérer que les gens qui gagnent 3 000 euros sont les riches. On peut considérer que ceux qui gagnent 6 000, 7 000, 8 000 euros commencent à être dans la catégorie des riches. Mais ces riches-là, ils sont français, ils payent des impôts. Mmh. Qu'est-ce qu'il leur reste après impôts? On ne peut pas dire qu'ils aient un comportement de riche, si vous voulez.
Jean-Louis Servan-Schreiber reste avec nous sur RMC dans les GG. Pourquoi les riches ont gagné? C'est aux éditions Albin Michel. On va faire votre fiche de renseignement, monsieur Servan-Schreiber. Donc, je vais vous demander vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît.
Boulogne-Billancourt, pas loin d'ici, le 31 octobre 1937.
Situation de famille.
Marié et 4 enfants.
Vous êtes grand-père aussi?
Huit petits-enfants.
Et alors, ça fait, profession.
Et trois chiens.
Oui, et poissons rouges, comme disait l'autre.
Ah non, le poisson rouge, ça m'a jamais tenté.
Profession.
Profession journaliste, forever.
Et patron de presse. Et alors, quand même, un mot quand même.
Bon,
un mot
parce parler.
Que, oui, parce que vous êtes un des patrons de presse en ce moment qui marche. Il n'y en a pas beaucoup dans la presse écrite.
Il n'y en a pas beaucoup, non. Oui, patron de presse, le journaliste, quitte à faire de la presse, autant que ce soit. J'ai été élevé dans une famille où il y avait des journaux, quoi. Enfin, bon, là, c'est atavique.
Profession, vous l'avez dit, journaliste forever. Les revenus.
Alors, les revenus, je suis dans la tranche la plus élevée.
C'est-à-dire?
Oh, c'est dans les 1%.
Et vous, c'est-à-dire, vous gagnez, vous avez des revenus de combien à l'année?
Ça ne vous regarde pas du tout, ça regarde le fisc, mais pas vous.
Vous dites les riches n'aiment pas la transparence. Vous l'écrivez.
Justement, démonstration.
Non, mais, je n'ai pas dit que les riches n'aimaient pas la transparence. Personne n'aime la transparence. Quand on demande à un Français combien il gagne, c'est quelque chose de gênant. Quand on demande à un Américain, non. Absolument pas. D'ailleurs, dans ce film, le Loup de Wall Street, on demande à un moment donné, alors combien tu gagnes? 72 000. Comment 72 000?
Oui, pas sortant à dire.
Pas sortant à se dire ça. Bon, je suis privilégié, je l'ai écrit dans ce livre.
Au début, effectivement.
À l'abri du besoin.
Non, à la fin.
À l'abri du besoin.
Bon, évidemment, à l'abri du besoin. Écoutez, j'étais entrepreneur, j'ai créé des emplois, j'ai créé des entreprises. Toute ma vie, j'ai eu peu d'échecs. C'est normal que ça crée une situation.
Heureusement, parce que sinon, ça serait désespérant, ouais.
Non, ça arrive quand on fait des choses. Quand on est entrepreneur, on se casse la gueule souvent.
Oui, mais quand ça marche, heureusement qu'on a le fruit de son succès.
Voilà, alors maintenant,
vous dites, dans le livre, vous dites aussi, vous parlez de votre situation faite, vous dites je vote à gauche, comme si vous voulez rassurer le lecteur, vous êtes un humaniste, vous l'écrivez.
Riche
êtes...
et qui vote à gauche,
oui, c'est noir sur blanc, page 142.
Mais il y en a beaucoup, il y en a toujours eu.
C'est pour avoir bonne conscience?
Mais non, c'est pas pour avoir bonne conscience, c'est de cette famille.
C'est dans les gènes.
Mais Servan-Schreiber ont toujours voté à gauche.
Oui, Servan-Schreiber ont toujours voté à gauche. Centre-gauche.
Restez avec nous, on a encore pas mal de choses à se dire. À tout de suite.
Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. RMC, 10h-13h, les grandes gueules.
Pourquoi les riches ont gagné? Analyse signée Jean-Louis Servan-Schreiber, qui est avec nous sur RMC. Le livre est aux éditions Albin Michel. Justement, on va parler d'un riche, d'un homme qui a travaillé, qui est né dans une famille difficile et qui a fait beaucoup parler de lui. Quelques mots, écoutez-le.
J'ai un passeport russe, mais je suis français. Et j'aurais certainement une double nationalité belge. Vous savez, si j'avais voulu échapper au fisc, comme on dit dans la presse française, je l'aurais fait depuis longtemps.
Vous l'avez reconnu, il s'agit de Gérard Depardieu. Que pensez-vous du cas Depardieu, alors?
Écoutez, c'est incontestablement un acteur exceptionnel. D'ailleurs, je crois qu'il est encore en train de le prouver sur les planches en faisant cet effort. Maintenant, il fait aussi un peu le voilà, il fait un peu le clown autour de ces histoires de fiscalité. Il n'y a pas besoin de faire de l'agitation sur les problèmes fiscaux, c'est d'un manque d'intérêt considérable. Mais c'est médiatique, ça fait causer.
Ah mais le Premier ministre s'en est mêlé en disant que c'était un... Il avait un sale comportement, c'est ça, si je me souviens bien.
Mais bien sûr, parce qu'il a commencé par dire qu'il voulait s'expatrier, pour moi c'est de l'agitation médiatique sans aucun intérêt.
Vous êtes très critique sur les médias, vous êtes un homme de presse. Et vous êtes un homme de presse qui a réussi ces dernières années. C'est vous, il faut le rappeler, qui vous avez créé Psychologie Magazine. Alors, ensuite, vous avez revendu...
J'ai créé l'expansion. J'ai recréé Psychologie. Voilà. Maintenant,
le magazine Clé qui marche très bien. Bon, à chaque fois, ça fonctionne. Alors, justement, la clé, c'est peut-être parce que vous échappez à l'agitation médiatique.
Si vous voulez, mais ça, dire ça dans une radio d'information, c'est aussi un peu iconoclaste. Mais
on est bien ça, nous.
Mon créneau à moi, c'est à contre-actualité. L'actualité, d'abord, souvent, on n'a pas de talent, et ensuite, tout le monde est dessus. Alors, c'est vraiment une compétition très dure. C'est pas facile. J'imagine que votre vie quotidienne est toujours en rapport avec celle des autres. Moi, plus ça a été, plus je me suis mis dans des secteurs où il n'y avait pas de concurrence. La psychologie. Personne n'en parlait. Maintenant, c'est devenu important. Clé, c'est pour retrouver du sens. On n'est surtout pas d'actualité. On est tous les deux mois, comme ça, on est sûr qu'on ne peut pas traiter l'actualité. Bon, mais ça, c'est mon truc à moi, si vous voulez. Voilà, oui, mais je raconte ça.
Vous touchez des aides à la presse parce qu'il y a un débat. Est-ce que on...
Absolument pas. Les aides à la presse vont pour les journaux qui perdent leur vie et qui sont les quotidiens d'information. Les malheureux sont dans un état vraiment, vraiment.
Et
difficile.
L'État a raison d'aider la presse, de continuer à aider cette presse ?
Il est obligé politiquement.
Ils sont voués à disparaître, ces journaux, selon vous ?
Écoutez, ça ne se fait pas de faire des prévisions comme ça à propos de confrères. Mais je suis content que mes enfants ne soient pas dans la presse écrite.
C'est dit. On va écouter quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est peut-être pour vous aussi de l'agitation médiatique. Écoutez les propos.
Je ne suis pas antisémite, si c'est ça qui vous fait peur. Non ! Ah, vous croyez que... Non ! il y a un malentendu. Je n'ai pas à choisir entre les juifs et les nazis. Je suis neutre dans cette affaire.
Dieudonné.
On ne retiendrait pas de moi que je prononce son nom.
Pourquoi ?
Parce que c'est ridicule. Parce que tout le monde... Voyez ce que c'est que l'actualité. On ne parle que de ce type, et qui ont lui fait une publicité formidable... Et on s'excite, et on commente, et on tourne autour. Et ça devient, en ce moment, ces jours-ci, le centre de la vie politique française. C'est lamentable. C'est un niveau consternant pour mon pays. Donc je ne parlerai pas de ce mec.
Mais c'est le gouvernement lui-même qui a désigné cet humoriste. Je ne pense pas
qu'il a raison.
Le président de la République lui-même en a parlé, aujourd'hui, François Hollande.
Eh ben oui, bon, c'est son affaire.
Donc on laisse dire, on laisse faire. Liberté d'expression ?
Évidemment que non. Vous imaginez ce que je pense de ce qu'il dit. Mais justement, je trouve que c'est tomber dans le panneau que de sauter dans la même piscine que tout le monde en même temps. Donc, je passe.
Dernier extrait pour vous. On va revenir au 31 décembre au soir. Vous étiez peut-être devant votre télévision à écouter les vœux présidentiels.
De fait.
Et vous avez entendu le début de l'intervention du chef de l'État.
L'État même du pays a justifié que je vous demande des efforts. Et je sais ce qu'il représente. Les impôts sont devenus lourds, trop lourds, à force de s'accumuler depuis de nombreuses années. Et en 2013, le chômage est resté à un niveau encore élevé, même si la tendance de ces derniers mois s'améliore.
Alors beaucoup sont tombés à la renverse en entendant un président de la République prendre conscience que les impôts étaient lourds, trop lourds,
ayant lui-même augmenté ses impôts.
Oui.
Il a raison dans son constat ?
Ah ben ça, c'est évident, tout le monde le sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le découvre après les autres. Vous savez, Mitterrand était parti, j'aime pas les riches, et puis en 83, il a été obligé de rallier, disons, le fonctionnement normal des pays. Il doit y avoir un délai comme ça de l'ordre de presque 2 ans pour un gouvernement socialiste avant de...
Oui, mais ça crée aussi beaucoup de colère, parce qu'on peut pas tenir un discours pour se faire élire, et puis, ou alors si, on peut le faire cyniquement, et puis 2 ans après, tenir un autre discours parce que on est face à des réalités.
Je crois pas que ça crée de la colère, ça crée de la déception.
Et du vote extrême ?
Écoutez, nous verrons bien à ces élections, mais le manque de bol cette année, c'est que les élections européennes sont celles où le vote extrême s'exprime le plus clairement, parce que le système de scrutin fait que donc on aura une montée, et après ça, on va se prendre la tête dans les mains comme toutes les fois, et puis ça ne changera pas grand-chose comme toutes les fois. Encore une fois, on s'excite sur des variations qui sont à l'intérieur d'un pays démocratique, d'un pays riche et d'un pays solide.
Donc vous êtes plutôt optimiste, vous, pour la France?
Mais je suis profondément optimiste.
Mais c'est rare d'entendre en ce moment ce discours, on n'entend que des déclinologues.
Bah écoutez, c'est pas uniquement pour me singulariser, c'est parce que je le crois.
Et alors pourquoi, justement, vous croyez à cet optimisme?
Pour une raison très simple, ça fait 3500 ans que l'humanité traverse des crises épouvantables. Elle les a surmontées, le progrès n'a pas arrêté. Maintenant, nous avons une population où la classe moyenne va dominer complètement le siècle. Et nous sommes en paix. C'est extraordinaire.
Pour combien de temps? Certains disent
que vous voyez des menaces de guerre mondiale?
Non, mais avec une nouvelle révolution qui s'amorce, la révolution technologique, le travail qui se dématérialise, une population qui aujourd'hui, au contraire, dans le monde grandit, y aura-t-il du travail pour tout le monde?
Les humains se sont adaptés sans arrêt. Sans arrêt. Alors franchement, faire du pessimisme en ce moment, c'est simplement regarder le bout de ses chaussures. Mais si vous regardez à l'échelle du siècle, c'est évident que c'est un siècle exceptionnel. Sauf, encore une fois, ma seule réserve, sauf s'il y avait une conflagration mondiale. Mais pour le moment, on n'en voit pas les signes. Chacun a trop de boulot avec lui-même pour s'occuper de ses voisins.
Merci Jean-Louis Servan-Schreiber. Pourquoi les riches ont gagné? Le livre est aux éditions Albin Michel. Très bonne année pour vous. Qu'est-ce que je vous souhaite pour cette année 2014? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Oh, de bonnes ventes.
Vous avez raison, c'est le principal. C'est pour ça que vous étiez là. Merci Jean-Louis Servan-Schreiber. On se retrouve, nous, demain avec notre ami fromager de Chandonnier dans les deux salles, Johnny Blanc, Sylvain Grandserre, l'instituteur, Philippe Gabillier, le professeur à l'École supérieure de commerce de Paris. Et puis, comme tous les mercredis, et c'est le retour du Conseil des GG, les élus de la République autour de la table. Philippe Doucet, le député maire socialiste d'Argenteuil. Geoffroy Didier, conseiller régional UMP. Et Christian Schottel, le maire de Janvry dans l'Essonne. Il est UDI. À demain.
Écoutez les grandes gueules 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.